J'ai le plaisir d'accueillir maintenant Mona Messine. Bonjour Mona.
Bonjour.
Vous avez écrit Biche, qui est édité par Livres Agités. Nous parlerons de cette maison d'édition très particulière. C'est un roman naturaliste qui nous plonge au cœur d'une forêt et mêle hommes et animaux, protecteurs et agresseurs. Le personnage principal, c'est Biche, sans article, comme pour Salammbô, Columba ou encore Angelo. Grâce à l'autrice, on est dans sa tête et dans ses muscles. Au sein d'une harde, elle protège les jeunes fans pendant que les mâles dominants brament et se battent, mais pas seulement. L'action principale se déroule en quelques heures avec des flashbacks dans la vie des personnages. Le décor, c'est une forêt et le livre s'articule sur une battue de chasseurs. Alan, un gentil garde forestier, veut sauver les animaux des chasseurs et de leurs abatteurs jusqu'à la fin, où se noue un drame paroxystique violent. Chez Les Chasseurs de Gérald, macho primaire qui semble né un fusil à la main et la mort en bandoulière, à Basile, un gamin qui tue sa première caille et réussit donc son chemin initiatique, il tuera plus tard un autre animal, mais pas un gibier, je n'en dis pas plus. De Gérald à Basile, donc, Les Chasseurs semblent être un groupe uni par la passion cynégétique, hors duquel évolue un autre personnage important, Linda, qui n'a pas le droit de chasser, mais qui dirige les rabatteurs. Elle convoque ça, ou plutôt ses vies amoureuses, à ses battues sous les arbres. De ces croisements de personnages au milieu de la forêt, la mort aura le dernier mot après une nuit d'attente et d'angoisse par un dénouement sanglant. Première question, Mona Messine, connaissez-vous l'univers de la chasse?
Je connais très peu l'univers de la chasse et je l'ai observé derrière mes fenêtres, puisque j'ai grandi dans la région, dans le Vaucluse, et je voyais depuis chez moi des forêts dans lesquelles j'allais me promener et dans lesquelles je jouais beaucoup quand j'étais enfant. Donc je connais beaucoup plus l'univers de la forêt que celui de la chasse, et je voyais avec terreur des chasseurs sortir de la forêt, leurs fusils en bandoulière, leurs chiens, et on avait très peur avec mon frère de se faire tuer nos petits chats, ce qui est déjà arrivé et qui a sans doute généré un sentiment d'angoisse vis-à-vis de la chasse de ma part.
Il y a d'ailleurs un clin d'œil à cette crainte, puisqu'il y a un chat qui est tué par un chasseur, un moment, un apprenti chasseur, disons, dans votre livre.
Tout à fait.
C'est particulier. Biche, c'est un premier livre nourri d'observations de la nature, végétale et animale, sans oublier les comportements humains.
Les comportements humains ou animaux, hein, on peut se demander aussi parfois. C'est vrai que j'avais envie de restituer toute cette sensorialité végétale que j'ai pu trouver dans la forêt, moi. J'aime aussi l'idée d'une promenade qui va s'intensifier un petit peu. D'abord parce que c'est un jour d'équinoxe, ensuite parce qu'il se met à pleuvoir, parce qu'un chasseur se perd et que toute cette dramaturgie va augmenter un petit peu. C'est une matière extrêmement romanesque aussi. C'est un endroit, la forêt, dans lequel on peut puiser beaucoup, beaucoup de tensions et en même temps d'éléments, d'objets narratifs qui vont pouvoir permettre de conduire une histoire, ce qui est un exercice très intéressant quand c'est un premier roman. Et les comportements des chasseurs, qui ne sont pas tous unis d'ailleurs, on peut le voir à certains moments, m'ont permis aussi de développer ces destins de personnages qui font que l'histoire se construit un petit peu comme une tragédie, avec Linda qui effectivement va ne pas avoir le droit de chasser, mais avoir un rôle assez primordial dans cette chasse, et puis Gérald qui se perd dans la forêt et dont les comportements vont s'apparenter peut-être à de la survie, à de la protection par rapport à ce qu'il connaît, à ce qu'il a envie de faire, à son essence de personne, de personnage, qu'il soit humain ou animal finalement.
Alors vous l'avez dit, Linda, c'est une rabatteuse, elle n'a pas le droit de chasser, alors que c'est une Diane chasseresse aussi. Donc il y a une frustration quelque part qui va s'exprimer et qui la hante de toute manière. Elle a appris à chasser au Québec où on chasse les ours et pas les biches, et encore moins les cerfs. Donc bon, c'est un petit peu particulier. Justement, le premier extrait que je vais lire de votre livre, c'est un extrait qui est comment dire, consacré à Linda. Elle est seulement, elle, la chef des rabatteurs. Au détour d'un sentier, elle vit accrochée à des branches une minuscule touffe de poils à hauteur d'animal. Surprise, elle fit signe à un enfant de s'en emparer. L'enfant s'exécuta aussitôt et lui tendit triomphant les poils d'une biche. Ce n'était pourtant pas la période de mue. Aucun gibier n'avait encore commencé à produire son pelage d'hiver, pas même les chiens, autour des chasseurs. L'une des biches était malade ou blessée, c'était l'alternative. Ces sales animaux marquaient souvent leur territoire d'excréments, de végétaux ligneux rongés sur leur extrémité. C'était maintenant par des fragments de peau qu'elle s'y mettait, vermine. Son envie de les mater redoubla. Ouh là là, mais c'est violent tout ça, Mona.
C'est un peu cruel, effectivement. Oui. Effectivement. Alors Linda, c'est vrai qu'elle elle n'aime pas trop les biches. Sans voir, et c'est là tout le drame peut-être de son personnage, sans voir qu'elle aussi est empêchée, comme les biches, qu'elle serait peut-être de celles à protéger, ou en tout cas de celles à qui on empêche et on interdit de faire des choses.
Alors dites-moi, on est loin quand même là des déclarations des chasseurs qui nous disent protéger la nature, aimer les animaux. Vous avez eu des réactions de la part d'associations de chasse à votre livre? Pas encore, peut-être.
Alors, ça serait des réactions que j'aimerais bien connaître, justement, et j'aimerais bien discuter avec des personnes qui pourraient ne pas être d'accord. D'abord parce que j'ai fait aussi un travail de recherche et que peut-être simplement j'ai fait des erreurs, et j'aimerais bien aussi avoir peut-être des regards sur ce que j'ai pu produire par rapport à la chasse. C'est vrai qu'on me dit surtout que c'est un petit peu manichéen, ce avec quoi je ne suis pas forcément d'accord, puisque je trouve qu'il y a quand même, du côté de Gérald, un certain amour de la nature, malgré tout. La chasse, ça représente quand même aussi une tradition, ça représente des échanges familiaux, ça représente un goût pour la gastronomie peut-être, une attention à la nature pour les saisons. C'est des connaissances qui sont très importantes aussi. Je pense une grande partie des chasseurs possèdent un savoir qu'il faut absolument préserver. Et de fait, moi, j'ai pas un regard complètement frontal avec cette pratique. J'ai un regard frontal avec la brutalité et avec la violence. Et Linda le possède aussi, cet aspect de force, d'envie d'écraser les animaux. Et de fait, je suis plus en confrontation avec le regard de Linda, par exemple, qu'avec un regard qui se voudrait protecteur envers les biches.
Alors évidemment, il y a des personnages, vous allez vraiment au cœur des personnages, et puis évidemment le personnage principal, c'est-à-dire Biche, c'est presque un être humain, parce qu'elle réfléchit, elle parle, elle est protectrice par rapport aux jeunes fans, elle fait attention aussi au chef dominant, c'est-à-dire au cerf, et puis évidemment elle a vu le chasseur, et il y a une connivence très particulière dont l'issue est la mort, entre elle et le chasseur, et c'est assez, assez spécial. Je vous propose d'écouter un deuxième extrait de votre livre, et là on est dans la psychologie et la psyché de Gérald, le chasseur. Gérald avait grandi dans cette région qui pratiquait la chasse écologique, heureux que sous ce nom se cache son loisir préféré, la chasse tout court. Prélever un certain nombre de bêtes chaque saison permettait de rappeler aux espèces qui avaient le dessus, d'éviter qu'elles se répandent et se cannibalisent, qu'elles prennent toute la place, un peu comme avec son ancienne compagne, se disait Gérald. La différence, c'est qu'on ne pouvait plus dire une chose pareille quand il s'agissait d'une femme. Alors là, on est vraiment dans la logique féministe qui peut vous animer et qui doit vous animer, Mona.
Oui, beaucoup. C'est vrai que ce livre Biche est quand même une allégorie, bien sûr. La biche, tout ce qu'elle souhaite, c'est passer une journée tranquille dans la forêt avec les fans. C'est le dernier jour de l'été, donc il y a des rayons de soleil. Nous aussi, là, on est en septembre à Manosque, il fait beau. Et ce qu'on a envie de faire, c'est tout simplement profiter, boire un peu d'eau dans le ruisseau, se promener, profiter des arbres. Et on l'empêche, encore une fois, c'est une question d'absence de liberté. Les chasseurs arrivent, elle a peur et elle doit s'occuper de survivre, elle doit s'occuper de protéger les autres, elle doit s'occuper de manger avant qu'elle ne puisse plus, et elle doit s'occuper de s'échapper, de se cacher. C'est injuste, quelque part, de ne pas la laisser faire sa vie, c'est du temps perdu, c'est du temps de vie perdu. Et ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, dans les sujets féministes en tout cas, c'est du temps perdu. De s'occuper, de se protéger, de réclamer, de se bagarrer, alors que la plupart d'entre les personnes victimes auraient simplement voulu traverser leur journée, simplement.
Donc c'est un livre où il y a un message particulier, humaniste, naturaliste aussi, sur effectivement la nature, voire l'écologie, et puis bien sûr la place des femmes dans notre société. La fin du livre, de votre livre, elle est en totale tension, elle est dramatique. Gérald vise la biche longuement, Linda, elle, veut le retrouver, et Alan, le jeune garde forestier, veut sauver l'animal. Je n'en dirai pas plus, car il y a du suspense avant la violence. Mona Messine, Biche, c'est votre premier roman. D'où vous vient le besoin d'écrire ?
C'est une immense question à laquelle je n'ai aucune réponse tangible. Ça vient de quelque part mystérieux pour moi. Ça vient d'une envie peut-être de cette liberté justement, puisque la littérature permet tout. Vous me l'avez dit tout à l'heure, il y a des épisodes qui ne sont peut-être pas vraisemblables, mais en même temps, si je ne pouvais pas écrire ce qui était faux ou inexact, je n'écrirais pas. Donc c'est vrai que ça vient peut-être d'une envie de traverser ce mystère de la vie, de voir des surprises arriver. Ça vient d'une envie de faire tout ce qui me passe par la tête, tout simplement.
Les épisodes qui n'existent pas et qui sont peut-être le fruit de votre imagination, mais une imagination très positive, c'est par exemple deux grands cerfs qui, au lieu de se combattre les bois en avant et d'aller peut-être jusqu'à la mort d'un des deux, se bécotent dans un coin devant un Gérald qui... Non, Gérald n'est pas là, heureusement, mais il est là. Et il est surpris de voir cette scène assez incroyable, alors que lui voudrait simplement retrouver la logique de la chasse, c'est-à-dire moi chasseur, toi gibier, et puis c'est tout, quoi. Donc c'est assez particulier. Et il y a un personnage pour lequel vous avez une immense tendresse, ça se sent dans ce livre, c'est Alan.
Oui.
Alan, le jeune garde forestier, alors... On oubliera ses émois amoureux, ça nous intéresse, enfin, en tout cas moi ça m'intéresse un petit peu moins. Par contre, vous dites des choses sur sa volonté, puis sa manière de travailler. Il est d'ailleurs écarté par les chasseurs lors de la battue, écarté par les gendarmes lorsqu'ils vont avoir à intervenir à la fin du livre. Et voilà ce que vous dites par exemple à la page 32. Alan, veine brindille au milieu des grands arbres, sauveur de faisans fou. Garde forestier ivre de son métier, rempart des biches contre le monde humain. Si c'est pas de la tendresse, ça ?
C'est de la tendresse, c'est de la tendresse dans un paysage tragique. Donc c'est une tendresse vers quelqu'un qui va peut-être échouer, parce que tous les éléments tendent vers le fait que l'issue de la chasse, elle est irrémédiable. Il y a un chasseur, une biche et un fusil. On sait ce qui va se passer quelque part. Et c'est vrai que Alan essaye malgré tout. Donc j'ai effectivement un regard de tendresse envers les gens qui essaient de contrer la fatalité, contrer le destin. Et de tendresse d'autant plus forte qu'on se doute que ça ne fonctionne pas. Et c'est ce qu'on peut voir aujourd'hui dans l'actualité, avec tous les drames dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi tous les sujets autour du féminisme. Il y a tellement de gens qui essayent et qui ne parviennent pas, et il faut de la tendresse entre toutes ces personnes-là, entre les victimes, entre les gens qui essayent. Et peut-être qu'on va arriver à quelque chose, peut-être pas. Aujourd'hui, on est au pas, justement. On est à l'absence de solutions concrètes. Et il faut se protéger et se motiver de continuer à essayer. Et Alan, pour moi, représente cette volonté. Il sait qu'il ne va pas réussir. Il le sait, il les a vus, les chasseurs. Il les a vus passer, il sait qu'ils sont... j'allais dire affamé peut-être, et ils ont un but, et il sait qu'il est tout seul face à eux, et il va tenter des choses qui sont à la fois réfléchies, qui sont dans ses possibilités, puisque c'est son métier, notamment de modifier des petits trajets sur la forêt par exemple. Mais c'est vrai que c'est faible par rapport à la mort et au coup de fusil qu'il y a en face. Pourtant il le fait, et pourtant il le fait tous les jours sans s'arrêter, parce qu'il a envie, voilà, de contribuer. On sait pourquoi dans le livre, il a une histoire familiale aussi par rapport à ça, et il ne s'arrête pas, et il le fait tous les jours, quoi qu'il arrive, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Et c'est pour ça que j'ai de la tendresse envers ce personnage, oui.
Il y a aussi le facteur temps qui joue, c'est-à-dire que un coup de feu et une biche ou un cerf qui s'affale, c'est très très rapide. Par contre, protéger la forêt et puis pister les biches et éviter, essayer de les diriger dans un endroit pour qu'elles évitent et qu'elles échappent aux chasseurs, c'est un travail de longue haleine. Et vous l'avez dit, en plus, depuis son enfance, il est marqué par un film, hein, évidemment, tout le monde l'a en mémoire, c'est Bambi, la mort de la mère du Fan. Et en même temps, il s'est dit, il a donné un sens à sa vie avec ce film, et puis il essaie d'apporter sa pierre à l'édifice. Il sera écarté, je ne dirai pas ce qu'il en est jusqu'à la fin, mais justement cette fin, vous êtes une adepte d'Alfred Hitchcock.
Alors je connais, mais je n'ai pas forcément pensé à Alfred Hitchcock en écrivant ce livre. Je serais plutôt côté Tarantino.
Oui, c'est plus moderne. Alors, hein, c'est plus votre génération. Mais,
génération, bon. Oui, mais Hitchcock est moderne quand même.
Ah,
même aujourd'hui.
Oh là là, oui. Celui qui ne frissonne pas en regardant Psychose, voilà. C'est pas un être humain, c'est pas possible.
Voilà.
C'est pas possible. Mais cela dit, c'est vrai qu'il y a, cette espèce de crescendo à la fin sur l'action, et en même temps, on se dit, mais quelle leçon tirer de Biche ? Ben, on vous laisse juger. Hein, on laissera le lecteur penser ce qu'il veut de ce milieu particulier, des chasseurs, mais aussi des protecteurs de la nature, mais aussi des gens qui négligent un peu les femmes, etc. etc. Donc il y a beaucoup de choses. Et puis, en même temps, c'est un livre qui est paru sur une, si j'ai bien compris, une toute jeune maison d'édition qui s'appelle Livres Agités. C'est une maison militante ?
C'est une maison engagée, oui. A engagé pour l'écologie, la justice sociale et le féminisme. C'est une maison qui a été fondée par Vanessa Caffin, mon éditrice, et Jeanne Thirier, son associée, cette année, en fait l'année dernière, puis le temps qu'on sorte le livre, voilà. Biche est le premier roman de la maison d'édition, et la maison s'engage à ne publier que des primo-romancières.
C'est une excellente chose, et puis bon, à nos côtés, Didier Lebret a lu également Biche. Qu'est-ce que vous en pensez, Didier, de ce premier roman particulier ?
Je dois faire un aveu, je n'ai pas encore lu, il est sur ma table de chevet, je vais m'y employer.
Ah, je pensais que vous l'aviez lu.
Non, mais en tout cas, le dialogue que vous avez eu m'a profondément à la fois intéressé et touché. Moi, ce sur quoi j'aurais envie, de lire le livre, mais surtout de rebondir sur cette histoire de violence, parce que je trouve que c'est... Je vois aussi une réflexion sur la violence, elle a toujours une profondeur. Enfin, je veux dire, c'est quand les chasseurs vous expliquent que c'était un privilège autrefois des nobles et que c'est quelque chose qui a une dimension sociale très forte. Dans la chasse, il y a la réappropriation d'une violence de classe qui était imposée sur le tiers état qui pouvait rien faire. Mais la violence des hommes, elle vient souvent, on l'a vu hein, dans beaucoup de cas extrêmement concrets, les abus, qu'ils soient sexuels, intrafamiliaux, incestuels, tout ce que vous voulez, il y a souvent un écho très, très lointain. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans ce type d'ouvrage, en tout cas la façon dont vous en avez parlé, c'est aussi une interrogation sur d'où vient la violence, qui est toujours associée à des choses. Pour les Grecs, les Irini, la tragédie, elle avait aussi cette dimension implacable qui faisait qu'on ne s'en sortait pas, parce que la violence appelait la violence. Dans la vie, il y a de la violence. La naissance, c'est un acte de déchirement. On est séparé tout d'un coup de ce qui constituait l'environnement idéal, pas plus parfait que le ventre d'une mère, et on en sort... On est expulsé, on hurle. Ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, c'est que au fond, on n'en a pas fini avec l'histoire de la violence. L'homme, il est à la fois, sans doute, il a des prédispositions à une forme de bonté, d'empathie, de coopération. Il y a beaucoup d'études qui l'ont montré, qu'on n'est pas du tout, comme le décrit la doctrine libérale, uniquement des machines vouées à la compétition et à annihiler son proche. Mais on a aussi cette dimension. Et ce que je trouve intéressant dans le débat aussi sur le féminisme, c'est qu'on ne peut pas faire abstraction du pourquoi d'une forme de violence. Qu'est-ce que c'est que la domination ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on va pouvoir abolir ou pas ? Et comme vous parliez d'une maison engagée pour des causes, vous avez cité, sociales, féministes, etc., à la fin, il faudra aussi faire quelque chose de cette question. Qu'est-ce que c'est que dans la vie des hommes, dans notre psyché, que la violence ? Est-ce qu'on peut devenir des agneaux ? Ma réponse, c'est non. Mais ce qu'on peut, c'est domestiquer cette violence et faire de cette violence quelque chose qui soit aussi positif. C'est-à-dire qu'il y a une forme de violence qu'on peut détourner. La création est un acte aussi de violence. Vous vous arrachez à quelque chose qui va de soi, qui est naturel, et vous produisez, vous disiez vous-même la fin de votre ouvrage à quelque chose aussi d'inattendu, peut-être même de violent, mais cette violence, vous lui avez donné un sens.
Et c'est vrai qu'il faut en parler. Et c'est bien justement d'en parler ici dans un plateau radio, de dire tiens, on a une fiction, il y a de l'imagination, il y a aussi du sens, il y a beaucoup de sens dans votre livre. Et puis effectivement, on est dans un moment clé, notre société est en train d'évoluer. On sait que on ne peut plus dire certaines choses, on ne peut plus faire. L'extrait que j'ai lu tout à l'heure concernant Gérald est révélateur. On ne peut plus dire, faire certaines choses, c'est bien, mais il n'en demeure pas moins que ça va aussi, par ailleurs, créer des frustrations supplémentaires. Donc, à un moment, il faut raison garder et puis se dire, bon, ben, où on va, qu'est-ce qu'on fait, et essayons d'être honnêtes, c'est difficile. Mona Messine, on va revenir sur Manosque, si vous voulez bien, après ces considérations. Oui. Merci Didier d'avoir partagé votre réflexion sur ces sujets. Vous êtes ici à Manosque peut-être pour la première fois, quoique vous êtes voisine aussi, puisque vous habitez dans le Vaucluse, vous nous l'avez dit. Comment vous voyez les rencontres avec les lecteurs et puis ce festival ?
Alors, je les vois d'un œil de primo-romancière, forcément. C'est vrai que être confrontée à ses lecteurs ou futurs lecteurs, puisqu'il y aura, je pense, les deux, c'est très, très intéressant pour quelqu'un qui vient de sortir son premier roman. D'abord parce que je vais pouvoir engager des discussions, répondre aux questions, comme on disait tout à l'heure, et puis comprendre aussi ce que dégage peut-être mon livre, parce que quand on est plongé dedans, on a des certaines vues dessus, et de fait, peut-être que certaines autres personnes en ont des très différentes. Donc j'ai hâte de voir un petit peu ce qui va se passer avec ça. J'ai hâte aussi de rencontrer d'autres écrivains. Ça, c'est un petit peu le côté rentrée des classes pour moi, peut-être, que j'apprécie beaucoup. Et puis, voilà, passer quelques jours au sein d'un endroit où va vivre la culture, où vont vivre les mots, les textes, et puis la musique aussi, ça, c'est vraiment agréable. Et c'est très agréable de se sentir soutenu comme ça par les acteurs locaux, par la ville, par les bénévoles qui travaillent pour que tout ça se construise.
Ben, on vous souhaite de belles rencontres à Manosque. Merci. Et il y en aura très certainement. En tout cas, il y en a déjà une ici pour ce qui me concerne. Et en même temps, je pense que vous allez aussi être questionné sur votre livre, sur Biche. Et ce sera en compagnie de Miguel Bonnefoy. Vous avez beaucoup de chance parce que Miguel nous a fait bon, faux bon aujourd'hui. Donc c'est une bonne chose. Et puis, sauf s'il arrive dans les 10 dernières minutes, on ne sait jamais avec Miguel Bonnefoy. En tout cas, son livre est magnifique aussi, oui. L'Inventeur. Vous avez lu plusieurs des romans des personnes qui sont, des auteurs qui sont invités à Manosque ?
Alors là, je viens tout juste de lire L'Inventeur, justement, et puis Un chien à ma table de Claudie Hunzinger, que je vais retrouver tout à l'heure en rencontre.